l'invitation. Alors, avant de commencer, comme disent les anglophones en latin, caveat lector, ou dans ce cas-ci, caveat auditor, avertissement au public, aux auditeurs. D'abord, je suis un sociologue de la politique, donc ça veut dire que les aspects peut-être plus techniques de l'économie échappent parfois à ma compréhension, un peu comme on pourrait dire certaines nuances de la politique échappent parfois à la compréhension des économistes. Oui, mais ça arrive, j'ai vu ça. Voilà. Donc je vais évidemment parler d'économie, mais avec un regard plus politique. Deuxième remarque avant de commencer, donc cette série de panels porte sur la crise globale déclenchée en 2008. Le cas de l'Argentine est un peu particulier justement parce que à certains égards c'est pas ça, c'est-à-dire cette crise qui constitue l'élément, la clé pour comprendre donc ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis quelques années en Argentine. Autrement dit, même un peu de façon paradoxale, on peut dire que l'Argentine n'a pas été véritablement touchée ou affectée, en tout cas relativement, comparativement, par cette crise. Et justement, ce que je vais tenter de vous montrer, ça peut expliquer un petit peu pourquoi justement on a cette situation-là. Et enfin, bien sûr, vous avez tous et toutes entendu parler de l'Argentine lorsqu'il était question de la Grèce. Donc il y avait comme des parallèles. Y a-t-il des leçons à tirer de ce qui s'est passé en 2001, 2002 en Argentine, la crise majeure, donc la grande dépression de l'Argentine 10 ans avant, ou 7 ans, 8 ans avant la crise globale. Peut-on voir des parallèles? Peut-on voir dans le cas argentin une sortie de crise qui aurait pu par la suite inspirer les politiques actuelles? Voilà. Alors, j'ai choisi un titre qui renvoie bien sûr à l'enjeu de la dette entre le default et le désendettement, un terme tout à fait central aujourd'hui dans le discours politique argentin, desendeudamiento. Donc d'une part, nous avons bien sûr cette cessation de paiement qui a déclenché la fameuse crise de 2001, décembre 2001 en Argentine. On a vu, vous rappelez peut-être les images, les saccages, etc. Je vais mentionner ça en passant. Je vais tenter de vous dire d'où ça venait, mais surtout ce qui s'est passé après. Donc les années 2003 jusqu'à aujourd'hui, sous le règne Kirchner, donc Néstor et Cristina par la suite. Désendettement, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cela est devenu, selon le président Kirchner lui-même, la politique d'État ou une politique d'État d'Argentine? En fait, quelle est la différence, vous pouvez vous demander, entre désendettement et tout simplement remboursement d'une dette? En remboursant une dette, vous êtes désendetté. Hein? Alors, y a-t-il là quelque chose de plus? Bien sûr, si on parle de dette, puisque ce sera le sujet central de ma présentation, deuda externa en Amérique latine, ça renvoie à un enjeu évidemment de nature et de portée politique, économique, mais aussi, et peut-être surtout à certains égards, de portée politique. Il faut s'interroger, ou en tout cas, quiconque s'intéresse à cette question dans le contexte latino-américain, ou peut-être, je vais parler du contexte argentin, qui dit défaut, qui dit désendettement, réfère au rôle du FMI par exemple et des marchés internationaux. Donc, et là il y a aussi une construction à la limite imaginaire, rhétorique, donc il se met en place autour de ce qui peut devenir un opérateur de l'action politique gouvernementale. Hein. C'est contre certaines forces que l'on adopte certaines mesures. Alors, J'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire, donc je vais tenter d'aller relativement vite. Et il y a beaucoup d'informations, donc je vais tenter de résumer. Et c'est pourquoi je me suis dit que, par exemple, tout simplement, il y en a parmi vous qui connaissent un peu cette chronologie de la crise argentine. J'ai tout simplement, pour aller vite, moi aussi, il faut allumer ça. Donc j'ai tout simplement tiré texto de la documentation française. Novembre 2001, c'est le gouvernement donc de Fernando de la Rúa, donc qui est arrivé au pouvoir après Menem. On va parler un petit. Je vais revenir sur certains points, hein, si vous voulez, en tout cas pour clarifier ou vous renseigner sur des choses que vous connaissez peut-être pas. Très très bien. Menem, président d'Argentine durant les années 90, de 90 à 99. Après cela, l'arrivée au pouvoir de l'Alliance, président de la Rúa, une sorte de mouvance d'amalgame de groupes péronistes et non péronistes, mais d'obédience un peu social-démocrate, on va le dire ça assez rapidement, libéral-social-démocrate, le débat est encore ouvert par rapport à cette expérience-là, qui a mené donc à une situation des crises économiques, l'Argentine, et on verra tantôt les chiffres, déjà durant la deuxième partie et surtout vers la fin de la deuxième présidence de Menem, tombe en récession, chômage, climat de protestation sociale, l'émergence des piqueteros, dont on a aussi parfois parlé. Et dans ce contexte-là, l'arrivée à échéance de la dette extérieure et l'incapacité du gouvernement à trouver la liquidité nécessaire pour rencontrer ces échéances-là. Besoin d'argent frais. Hein. Le FMI, au début décembre, refuse à l'Argentine un prêt, puisque le septième plan d'austérité, c'est-à-dire réduction des dépenses, ce qui crée dans un climat, évidemment, comme on le connaît en Argentine dans ce contexte-là, donc une situation qui va mener à cette explosion de la fin 19-20 décembre avec 32 victimes par ailleurs, état de siège ainsi de suite, mais donc essentiellement cette incapacité de l'Argentine de payer par rembourser la dette. À ce moment-là, on est en train de payer les intérêts en vue de refinancer l'essentiel de la dette. Démission du ministre de l'économie, Domingo Cavallo, on va le revoir aussi dans l'artisan de ce qu'aura été appelé le miracle argentin du début des années 90, donc cette croissance considérable, on verra tout à l'heure, liée à cette invention tout à fait unique, la convertibilité, hein, la parité peso-dollar. Hein. Alors, cela sera... parce que... c'est coupé. Hein. Laissez-moi voir... Hop. Bon, il y a un bout de diapositive que vous ne voyez pas, alors je vous le dis. Démission du président de la Rúa et Eduardo Duhalde est élu président par le Congrès. Ouais, c'est juste une question de formatage parce que là, il y a ce bout-là qui parle.
Ok.
C'est pas tellement grave.
Ça va.
Donc le 6 janvier 2002, Duhalde Presidente, loi d'urgence économique, dévaluation du peso. Donc concrètement, ça veut dire sortie de la parité, de la dollarisation de l'économie, hein, qui était devenue effectivement le carcan, on peut en parler, je vais vous donner encore quelques éléments à ce propos-là, mais qui était effectivement ce qui, aux yeux de certains, était la clé du succès argentin, devient la sentence de mort du modèle lui-même et là l'enfoncement dans cette crise unique dans l'histoire de l'Argentine et peut-être dans la région. Mais un élément aussi tout à fait fondamental ici, c'est pas mentionné dans la chronologie, c'est Rodríguez Saá, qui est lui, vous rappelez, on parlait de 5 présidents en une semaine, ou je me rappelle plus, quelque chose pour parler de la dimension aussi institutionnelle de la crise. Bon, mais Rodríguez Saá, qui est président pendant seulement quelques jours, c'est lui qui décide de manière tout à fait délibérée d'entrer en default concernant les paiements. Autrement dit, ce n'est plus possible, plus de plan d'austérité dans cette situation-là, avec les morts et les émeutes, les saccages, c'est fini, on passe à autre chose. Donc c'est effectivement très très important de voir que Eduardo Duhalde, par la suite, lui, il hérite du default et lui sort de la convertibilité. Alors ça, c'est un peu pour vous donner le contexte général. Là, revenons tout simplement rapidement au contexte de Menem. Menem, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler, hein, le péroniste devenu néolibéral, etc., etc., avec Domingo Cavallo qui, très content à ce moment-là, nous montre que pour chaque peso, il existe un dollar en réserve. C'était vraiment le génie de la chose était aussi dans sa simplicité. C'est vous avez un peso, c'est convertible parce que nous avons gardé un dollar qui soutient donc le problème de l'Argentine qui a été depuis des décennies, et on parlera tout à l'heure de cela, l'inflation. Hein, l'Argentine a connu plusieurs moments d'hyperinflation, notamment dans ce contexte-ci, la fin du gouvernement d'Alfonsine. Alors à ce moment-là, cela créer une situation de stabilité monétaire absolument inouïe, c'est-à-dire inconnue des Argentins depuis les années 50. Alors, tout simplement, taux de croissance d'Argentine et Amérique latine. Bon, on va se concentrer pour le moment seulement sur l'Argentine, donc dans le long terme de décennies. Alors, on voit effectivement la sortie de la crise de fin de gouvernement d'Alfonsine. Et puis une situation relativement intéressante, et c'est là que le Wall Street Journal va parler du miracle argentin. Donc enfin l'Argentine se met debout, ceci, cela, etc., la promesse est réalisée, ainsi de suite, privatisation, donc vous connaissez un peu tout cela, hein, déréglementation, libéralisation des marchés, on vend YPF et donc la compagnie de pétrole, on vend les télécommunications, on privatise les transports, ainsi de suite. Donc au moment de grande croissance économique, et ça correspond évidemment à la crise asiatique, à l'effet tequila, etc., mais l'Argentine rebondit tout de même, donc jusqu'à à peu près le 95, c'est la réélection de Menem, donc deuxième mandat, jusque là tout semble aller relativement bien, et là on a donc cette mouvance vers le fond. cette chute donc du modèle qui, bon, comme je mentionnais tout à l'heure, donne lieu aux protestations, l'émergence des piqueteros, etc. Et donc élection de l'Alliance comme une sorte de compromis, maintien de la convertibilité, maintien de Cavallo, hein, comme ministre à l'économie, mais réorientation post tentative de sortie du néolibéralisme, une sorte de sortie douce du consensus de Washington. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup d'Argentins le voient. Nous arrivons à l'ère Kirchner, donc 2003 aussi, là il y aurait quelque chose à dire, mais rapidement, finaliste à la course présidentielle, Menem qui revient de la mort, un peu comme un zombie, un peu qui étonne, mais qui semble avoir des chances, si bien qu'il obtient 24% des voix. Donc première place, sauf que lui, Menem se désistera. En vue du deuxième tour. Alors, par défaut, Néstor Kirchner devient président de l'Argentine avec 22% des voix. Alors, un inconnu total, une sorte de péroniste de la Patagonie, gouverneur très très longtemps d'une province presque très peu peuplée, disons, pour le dire ainsi, politiquement insignifiante et ainsi de suite, et qui va produire un virage majeur qui, et c'est là que on va peut-être, encore pour faire vite, je fais référence, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, surtout durant la première moitié des années 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. L'Argentine avait une croissance économique absolument remarquable, comparable d'ailleurs à ce qui se passait pour l'ensemble de l'Amérique latine, mais peut-être de manière encore plus prononcée, et si bien qu'on parlait de crecimiento a tasas chinas. Hein, taux chinois dans le sens de, du fameux 8%, donc maintenu, soutenu dans le temps. Le secret de cette merveilleuse croissance où l'Argentine rebondit de manière absolument étonnante par rapport, on voyait l'Argentine comme le pays en banqueroute complètement fini, les gens disaient bon mais on va vendre l'Argentine parce que un peu comme on vend un commerce qui n'a plus de rien, de stock, de capital, de crédibilité internationale, et tout à coup on a un pays qui montre donc ce type de dynamique. On va parler de, en espagnol, superávit gemelos. Ce sont des surplus, c'est-à-dire un surplus de la balance fiscale et de la balance commerciale très positive. Donc là, il y a un changement assez important. Donc un trait, bien sûr, de fond pour un gouvernement qui commence de plus en plus à mettre en place des politiques sociales. Donc les dépenses publiques, qu'on ait ceci une croissance très considérable, mais parce que il y a cette liquidité qui est possible via donc un tas d'instruments hein, fiscaux, dont peut-être vous avez aussi vous rappelez de la crise de l'agriculture en Argentine au début du mandat de Cristina Kirchner. L'Argentine impose des taxes d'exportation. Donc à ce moment-là, là aussi. Mais disons que peut-être pour certains en tout cas, et là il y a un débat à faire et je vous le soumets puisque je ne sais pas s'il y a une façon de le démontrer ou de rejeter l'hypothèse, c'est le fameux viento de cola. Hein? C'est le vent arrière, mais ça passe surtout en anglais, tailwind, c'est ce que les avions peuvent avoir. Donc, ce n'est pas grâce au pilote hein, qui conduit plus vite ou qui est plus capable d'aller plus rapidement vers la destination, c'est que vous avez, parfois vous êtes chanceux et vous avez un vent arrière. Donc, on parle beaucoup en Argentine de viento de cola, donc tailwind, qui veut dire tout simplement qu'il y a une montée fulgurante de la demande, de la production et des prix internationaux de la soja. Au soja, c'est-à-dire grano de soja, soya beans, ça devient le commodity argentin à tel point que des chiffres comme ça, absolument tout à fait surprenants, de 7,5 à 25 milliards de dollars dans les 10 ans depuis l'arrivée de Kirchner au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, 10% du territoire argentin, l'Argentine est grande, hein, c'est-à-dire c'est une surface assez considérable, 10% de ce territoire est couvert de soja j'attire l'attention aussi, ça peut être intéressant ou non, ça peut être pertinent ou non, à peu près la moitié est transgénique. Hein, donc l'Argentine aussi est le champion des cultures transgéniques, peut-être, en tout cas à l'échelle des Amériques, certainement. Alors, voilà, une manne, évidemment, qui, à certains égards, met la question sur la table. S'agit-il d'une bonne gouvernance, d'une bonne politique économique ou tout simplement de la chance hein, Kirchner arrive avec viento de cola. Bon. Ceci dit, hein, on est encore très très, on verra tout à l'heure les chiffres de croissance, élu avec 45% des voix, donc bon là, je ne vais pas entrer aussi dans la dimension politique, pourquoi c'est l'épouse du président qui devient présidente, etc. Là il y a aussi quelque chose d'assez particulier, et il sera réélu en 2011 avec 54% des voix. Donc les gens sont contents évidemment, vous allez me dire, bien sûr, il y a quelque chose qui se passe dans le contexte argentin, c'est que cette croissance-là se continue, ça se traduit dans une politique sociale extrêmement Certains appelleront ça généreuse, ou en tout cas juste, dans le sens d'une distribution du revenu, mais on verra aussi que cela commence à poser un certain nombre de problèmes. Alors, l'évolution du PIB argentin, taux de croissance annuel, ce sont des projections, c'est le FMI avec des projections que j'ai ajoutées, disons ça va jusqu'à 10 000, donc j'ai ajouté 2013 et la projection pour l'année prochaine. Donc, vous voyez un petit peu l'histoire qu'on a déjà vue. Donc, la crise, bien sûr, croissance négative, et ben, regardez, c'est incroyable. Et là, tasa chinas. Oui, mais c'est ça justement, on verra tout à l'heure. Quel est le plancher à partir duquel on va croître. Mais ceci dit, bon, il y a une croissance soutenue. Ça, c'est intéressant de voir, effectivement, 2009, crise globale, oui, ça touche l'Argentine, mais ça rebondit tout de même. Donc, et c'est dans ce contexte-là, hein, après ceci, que nous avons la réélection de Cristina Kirchner, comme ici on avait son élection. Donc évidemment, un contexte tout à fait favorable pour le gouvernement en place. Par contre, nous voyons, et on va voir tout à l'heure les défis, des valeurs qui sont tout de même intéressantes, mais qui marquent clairement, possiblement, aux yeux de certains, l'épuisement du modèle. Ou en tout cas, un problème que l'on a souvent vu en Argentine, ce sont les spirales ou les cycles, c'est-à-dire croissance et arrêt soudain, et parfois catastrophique, comme dans le cas de 2011, de 2001. Bon. Tout simplement, aussi pour ajouter à la lecture, lui donner un contexte, maintenant, oui, regardons un peu plus le reste du continent, l'Amérique du Sud seulement, donc évidemment, ça veut dire le Brésil, mais aussi la Colombie, le Venezuela, le Chili, l'Uruguay, donc plusieurs acteurs qui sont intéressants de comparer aussi en ce qui concerne, en tout cas que moi-même j'ai comparé, en ce qui concerne évidemment l'orientation de leur économie, mais surtout leur orientation de politique sociale et leur place dans ce qu'on a appelé, maintenant on en parle un peu moins, la fameuse gauche ou le virage à gauche, hein, parce que je vous inviterai aussi à réfléchir sur la portée du gauchisme ou non de ce gouvernement, mais aussi quand on regarde à la fois à la performance et les défis au fil des années et surtout d'aujourd'hui. Alors tout simplement voir qu'à certains égards on peut voir aussi l'Argentine tout simplement comme rattrapant. Donc crise, rattrapage. Donc la tendance lourde. Ce type de données prête légitimité à l'idée de l'hypothèse du tailwind, viento de cola. Autrement dit, l'Argentine n'est pas exceptionnelle, la tasa china, c'est tout simplement après la chute, hein, la remontée, dans un contexte favorable à l'ensemble de l'Amérique latine, et qui était vu comme étant un cas assez particulier. Et je vais passer rapidement, parce que j'ai 5 minutes, mais en tout cas, on pourra peut-être revenir sur la question du default de 2001. Je ne vais pas m'arrêter trop sur les détails. Il y a tout simplement, donc, dans ce contexte-là, la cessation de paiement, hein, vous avez les chiffres, peu importe qui étaient les, ça c'est important aussi d'un point de vue politique, qui étaient les créanciers, est-ce que c'est les grands bourgeois de Wall Street ou les vieux retraités italiens, leur petite épargne, etc. Là, ça a créé aussi un certain nombre de discussions qui me semblent intéressantes, qui vont au-delà de la dimension purement technique de l'économie. Il y a cette dimension tout à fait centrale, très actuelle. Il y a des choses qui se passent même en ce moment-ci, cette semaine, concernant donc ce qui a été appelé la restructuration de la dette. Autrement dit, et on va voir tout à l'heure quelques citations de Joseph Stiglitz, qui va dire, bon, mais ça a été justement le coup de génie de Kirchner ou de Nestor au début, c'est de dire, bon, on va payer 30 cents pour chaque dollar. Hein, c'est un peu comme on fait lors de la banqueroute, hein, c'est-à-dire c'est le chapter 11, hein, c'est-à-dire je vous donne, alors ça peut avantager à certains égards non seulement le client, celui qui est endetté, mais aussi les créanciers, qui peuvent avoir quelque chose plutôt que rien. Hein? Et il peut avoir une certaine reconnaissance de la... En tout cas, un rétablissement du lien entre créanciers et pays ou individu endetté. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans cela. Sauf qu'il y a eu les fameux holdouts, les gens qui n'ont pas voulu entrer dans l'échange de titres, c'est-à-dire je vais tenir mes titres qui disent que la dette est en dollars et pas 30 sous. Hein? À ce moment-là, ces dettes ont été revendues et rachetées par ce qu'on appelle très souvent dans le discours, même journalistique, n'en parle même pas de discours politique en Argentine, fondos buitres. Ça veut dire les fonds vautours. Hein? C'est des spéculateurs qui achètent fonds de chatarra. Hein? Et essayent au très long terme, parfois via, par exemple ici, les cours de New York, en avoir le tout, le plein prix. Hein? Et ça crée des problèmes aussi, parce que si vous donnez le plein prix à ceux qui n'ont pas accepté la transaction, la réduction des titres, des valeurs des titres, la dépréciation, alors à ce moment-là, vous devriez, en théorie, repayer le reste aux autres. Donc vous revenez au problème devenu maintenant beaucoup plus grand parce qu'il y a tous les intérêts et tout cela. Bon, alors, nous sommes rendus là, en Argentine. Kirchner, très fier de lui, avait dit « Nous avons réussi la meilleure négociation du monde pour la plus importante dette du monde. » Joseph Stiglitz, bon, j'ai pas le temps de regarder avec vous, est d'accord. Et pour lui, c'est la formule clé. C'est, il dit, justement, c'est pas dans le, vous le voyez pas, mais il dit, les individus ont le chapter 11, hein, et ça permet à l'économie de sortir d'une crise et rétablir, justement, dans le cas d'un individu, de le remettre dans le circuit hein, économique, financier, etc. Que faire avec un pays ? Alors pour lui, la solution argentine était la bonne. Hein. Le problème, selon lui, c'est qu'il manque des mécanismes, justement, à l'échelle multilatérale, transnationale, pour réguler ce type de situation. Donc l'Argentine l'a fait, mais sans régulation qui puisse la supporter, ce qui donne lieu à la judiciarisation via les tribunaux, etc. Le juge, oui, c'est ça. Alors, bon, je vais donner moi une minute peut-être juste pour mentionner donc bon le débat autour du désendettement versus l'idée du remboursement. L'Argentine comme le Brésil d'ailleurs ont remboursé l'entièreté de leurs dettes auprès du FMI. C'était montré au monde, surtout aux Argentins, aux Brésiliens, aux Latino-Américains, comme une victoire de l'indépendance nationale vis-à-vis du capitalisme sauvage, etc., etc. Bon. Question qui demeure ouverte. Qu'est-ce que ça a voulu dire ? Est-ce que c'est tout simplement un relato más, parfois comme on le dit Clarine, l'opposition. La réduction de la dette publique, cela est absolument indéniable. Simplement, l'Argentine, réduction de 72,5% de sa dette comme pourcentage du PIB entre 2002 et 2012. Donc champion, l'Argentine, c'est à cet égard-là, effectivement, objectivement, c'est l'un des... un institut espagnol qui a fait un travail, me semble, assez sérieux. C'est indéniablement donc le champion du désendettement. Mais qu'est-ce que ça donne ? C'est ma question. L'Argentine a été épargnée, si vous voulez, de la crise mondiale, en partie parce qu'elle était isolée des marchés. Donc le secret de l'Argentine en ce qui concerne l'impact de l'effondrement donc, du monde capitaliste en 2008, 2009, etc., s'explique en partie parce que l'Argentine était bannie, blindée, on disait blindada, blindée car bannie de ces marchés auxquels, évidemment, comme individu en banqueroute qui n'a pas réussi à se mettre sous la protection des demeures, vous n'allez pas à la banque parce que la banque ne veut même pas vous voir. Il y a des wanted. Hein, Il y a des photos de vous. Bon, voilà. Alors, tout simplement, j'aurais eu, mais je laisse ça si jamais, une liste. Mais là, juste pour vous montrer la liste. Et la diapo continue, hein, parce que c'est coupé. La liste des défis actuels. Inflation, monnaie surévaluée, contrôle des prix d'aliments, restrictions d'importation, moindre surplus d'avance commerciale, déficit énergétique et la nationalisation des compagnies qui se poursuit sous une logique un peu différente, mais qui va créer des problèmes. Donc, voilà, voici le modèle à certains égards extrêmement réussi sur le plan, par exemple, de comme dans le cas du Brésil, sortie de la pauvreté, extrême de beaucoup de plusieurs couches de la population, et ainsi de suite. Par contre, une situation que certains voient comme explosive, peut-être pas comme celle de juste avant la crise de 2001, mais quelque chose qui, malheureusement, avec cette idée de cycle, pourrait nous retomber sur la tête, ce qui serait catastrophique. Voilà, et je conclue là.
Merci, professeur Molly.